Hello à toutes et à tous, ici Laetitia et Adrien.
Que vous nous écoutiez au bord de la piscine, à la montagne ou au camping des Flots Bleus, on vous accompagne tout au long de cet été.
Nous avons sélectionné quelques interventions marquantes, piquantes, pertinentes de la saison 2 du podcast Le Café de l'e-commerce.
Découvrez-les ou réécoutez-les tous les lundis.
On se retrouve en septembre pour le retour des émissions habituelles.
En attendant, parlez-en autour de vous et contactez-nous avec les liens en note de l'épisode. Bon été!
Hello à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Flora. Flora qui est Head of Marketing chez Payplug. Et ben, on va parler de money, de fintech, d'argent et de fraude. Bonjour Flora.
Salut à tous les deux.
Bienvenue dans le podcast. Flora, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et puis qu'est-ce que c'est que Payplug?
Donc je suis Flora, je suis Head of Marketing chez Payplug. Payplug, c'est une solution française de paiement qui permet à tous les commerçants en ligne comme en magasin d'encaisser très simplement leur paiement. On est présent en France et en Italie et on est 130 collaborateurs à peu près.
Aujourd'hui, ce qu'on voulait voir ensemble, c'est de parler de fraude, comme l'a dit Laetitia. On voulait discuter des nouveaux risques de fraude pour les e-commerçants. Et peut-être avant de commencer à parler de ça, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on veut dire par la fraude?
Alors la fraude, c'est un très vaste sujet. Ce qu'on va discuter un petit peu plus précisément aujourd'hui, c'est donc la fraude au paiement. Il y a plein d'endroits dans la chaîne de valeur où les gens peuvent vouloir tricher. Moi, personnellement, j'ai triché toute ma vie au Monopoly. Je pense que c'est un peu dans la nature des gens d'essayer quand même de voir s'ils ne peuvent pas gagner un peu plus. Et malheureusement, ça peut exister dans plein de domaines. Ceci dit, dans le paiement, ça peut être très, très critique. Pourquoi ? Parce qu'on parle de l'argent des gens, l'argent des commerçants en particulier, donc globalement de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est un enjeu qui est essentiel. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il y a des solutions qui sont spécialisées dans le paiement. C'est parce qu'il y a plein de problématiques légale et réglementaire qui oblige les solutions à offrir le plus de sécurité possible.
Et quand on parle de nouveaux risques de fraude, est-ce que tu dirais qu'il y a des nouveaux risques ou en fait ils étaient toujours là, c'est juste qu'on en parle plus et qu'il y a des changements sur le marché qui sont plus mis en avant?
Alors, c'est complètement les mêmes risques. C'est des schémas qui sont très similaires et nous, c'est ce qu'on observe aussi de notre côté. Mais on en parle différemment. Il y a l'actualité qui fait qu'il y a certains schémas de fraude qui sont mis en valeur plus que d'autres.
Du coup, Flora, si je comprends bien, on a toujours, peut-être, on a cette image d'Épinal du fraudeur qui est dans sa petite chambre au fin fond de l'Europe de l'Est ou je ne sais pas où d'ailleurs et qui essaie de hacker un site marchand. Ça fonctionne toujours en fait. Enfin, pas que ça fonctionne, mais ça existe toujours en fait.
Ça existe, mais il peut être aussi au fin fond de la Creuse, rassure-toi.
Ouais, voilà, exactement. Donc ça existe toujours des gens un peu malveillants ou pas, ou qui aiment bien jouer et qui essaient de frauder.
Il peut y avoir des gens qui fraudent volontairement, il peut y avoir aussi parfois un peu des accidents. En gros, si je devais définir deux grands types de fraude, elle peut être quand même des deux côtés de la chaîne de valeur. Il peut y avoir du côté de ce que nous on appelle le porteur, c'est-à-dire le client final, celui qui a la carte bancaire entre les mains, qui essaye de payer. Dans ce cas-là, ça peut être effectivement celui que tu décrivais tout à l'heure, qui va essayer au fin fond de sa chambre de mettre 1 million de numéros de cartes volées sur une page de paiement, puis voir s'il n'y en a pas une qui va passer. Et ça arrive. Et nous, notre travail, c'est de s'assurer que si ça arrive, le paiement ne passe jamais. Mais ça peut être aussi vrai de l'autre côté. C'est-à-dire des marchands qui livrent jamais, ou bien des différents commerciaux comme ça, qui font que le client final va faire opposition sur sa carte et puis essayer de récupérer son argent. Et en fait, ça, c'est quelque chose en tant que consommateur qu'on voit pas, qu'on sait pas trop ce qui se passe. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire opposition sur vos cartes bancaires, mais en fait dans ces cas-là, souvent notre banque elle nous rend l'argent, puis après on se dit c'est cool, je passe à autre chose. Et en fait dans ce cas-là, il y a énormément de choses qui se mettent en branle dans les institutions bancaires. Et en fait le paiement qui est refusé va remonter chacun des acteurs jusqu'au marchand. Si jamais le marchand était de bonne foi, c'est lui qui se prend la prune. Et c'est ça qui est difficile, en fait, souvent, qui est un gros enjeu pour les marchands. C'est qu'ils doivent, à la fin, payer, même si pourtant, ils ont livré.
Alors justement, Flora, comment est-ce que les marchands peuvent se protéger contre la fraude? Est-ce qu'il y a des dispositifs que vous préconisez? Enfin, j'imagine que la loi aussi préconise pas mal de dispositifs.
Légalement, le meilleur moyen, en fait, de se prémunir de la fraude, c'est de s'assurer que la personne qui paye avec un moyen de paiement dématérialisé, donc globalement un chèque ou une carte bancaire, c'est vrai de la même manière, c'est de s'assurer de son identité. C'est pour ça que toi, quand tu vas à la caisse et que tu payes par chèque, Alors, on le fait de moins en moins. Moi, c'est des années que je n'ai pas fait ça, mais on ne sait jamais. Ils te demandent ta carte d'identité et ils recopient ton numéro de carte bancaire. Ton numéro de carte d'identité, pardon. En fait, ça, c'est leur moyen de prouver que c'était bien toi qui portais le chèque. C'est vrai pour la carte bancaire aussi. En fait, quand tu fais ton code PIN, tu assures que comme tu connais le numéro de ta carte, enfin ton code PIN sur ta carte, bah t'es bien le propriétaire de la carte bancaire. Donc en fait, en physique, cette problématique, elle s'est jamais beaucoup posée parce que bah tu fais ton code et bah tu passes à autre chose. Et en fait, à ce moment-là, tu ne peux pas toi, en tant que payeur, dire que c'était pas toi qui avais ta carte puisque tu as fait ton code. Le problème commence à se poser sur le sans contact puisque tu ne fais pas ton code. En e-commerce, par contre, il y a une problématique qui est que tu ne peux pas faire ton code et que bah théoriquement le marchand qui doit pourtant s'assurer de ton identité a assez peu de moyens de le faire. Et c'est le 3D Secure, donc le SMS que tu vas recevoir, en fait c'est ça. C'est un moyen pour le marchand d'être sûr à 100% que c'est bien toi et donc de pouvoir s'opposer à toute contestation du paiement. Le problème du 3D Secure, bah, c'est que c'est une étape en plus, donc c'est de la friction et donc c'est des risques d'abandon de panier.
Juste avant de revenir sur l'aspect consommateur, sur le marchand, est-ce qu'avec 3D Secure, bah, 100% des fraudes sont évitées, des fraudes au paiement, ou il y a toujours une partie, mais bon, ça sera réduit?
Je crois qu'en fait, la créativité de l'être humain est telle, il y a toujours quelqu'un qui va être potentiellement plus malin que toi. La question, c'est de savoir à quel point tu es capable d'absorber le risque et surtout si c'est toi qui prends la prune ou si c'est quelqu'un d'autre éventuellement. Normalement, si jamais il y a une opposition et qu'il y a eu du 3D Secure, c'est pas toi qui prends la prune en tant que marchand, c'est plutôt la banque. Donc, à la limite, normalement, t'es bien protégé. Donc, théoriquement, s'il y a eu du 3D Secure, toi, tu ne portes pas la responsabilité et t'es tranquille. Mais par contre, effectivement, souvent, ça a un impact non négligeable sur ton taux de conversion. Donc, il y a beaucoup de marchands qui ne veulent pas le faire. Et en fait, cet équilibre qu'il faut trouver entre conversion et sécurité, c'est un problème qui peut avoir lieu en fait dans tous les business. Et est-ce que tu veux prendre du risque ou est-ce que tu veux être très, très, très sûr de ton résultat, quoi.
Alors, ils ne veulent pas le faire, mais maintenant, ils sont obligés de le faire, non ? C'est bien ça.
Depuis
donc là, il n'y a plus le choix.
Depuis le 15 mai, très exactement, il y a une nouvelle réglementation européenne qui a été mise en application complètement, qui s'appelle la DSP2. Donc, c'est la directive sur les moyens de paiement. C'est un truc au niveau européen. Et qui oblige, en fait, plusieurs acteurs dans la chaîne du paiement. D'une part, les banques des clients finaux. Et d'autre part, les acteurs du paiement comme nous, ce qu'on appelle les PSP, donc les solutions de paiement, à limiter, en fait, leurs taux de fraude globaux. L'objectif de ce truc-là, c'est d'augmenter la confiance des consommateurs finaux dans le secteur du e-commerce au global. Je pense qu'en fait, à horizon 24 mois, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur. Pourquoi ? Parce que ça va faire baisser les taux de fraude et ça va augmenter, en tout cas théoriquement, la confiance des gens, puisque ça va leur prouver qu'ils ne vont pas se faire piquer leur carte bancaire. Voilà. À court terme, le problème que ça a, c'est que ça force effectivement beaucoup plus de 3D Secure. Pourquoi ? Parce qu'une grosse majorité des décisions de 3D Secure ne se font plus à la demande du marchand, mais à la demande de la banque du client.
Est-ce qu'on ne peut pas se dire que, comme ça arrive tout au bout du tunnel d'achat, le client il a quand même fait de 5 à 10 étapes, on va dire de 3 à 10 étapes pour y arriver, et que finalement, il est plus prêt. Enfin, tu vois, c'est hyper facile de recopier un SMS et qu'il n'y a pas tant d'abandon que ça.
Alors ça, c'est vrai pour des gens comme toi et moi, qui ont l'habitude d'utiliser leur téléphone, voire tendance qui ont le nez tout le temps collé dedans, je parle pour moi. C'est vrai aussi pour tous les gens qui ont l'habitude de la technologie en général. Rajouter un SMS, c'est très simple. Éventuellement, même directement, quand ils sont en train de payer sur mobile, payer sur leur mobile, s'identifier, puis repartir sur la navigation, c'est très, très simple. Si tu parles à des gens qui sont moins éduqués, qui sont plus âgés aussi potentiellement, ça devient plus compliqué. Il y a des gens qui sont averses au smartphone, par exemple, et qui n'ont pas de téléphone. On a du mal à l'imaginer dans notre petit milieu, mais en fait, il y en a. Et tout cela, ils se coupent du e-commerce.
Ouais, puis c'est quand même hyper intrusif de recevoir un SMS et c'est hyper directif. Copier ce code et faites ci et ouvrez. Moi, personnellement, il faut que j'ouvre mon application, machin.
Tu te sens agressé que le SMS se dit bien, s'il te plaît.
Ouais,
merci,
moi,
c'est
je
ça,
trouve ça hyper intrusif. Et après, je comprends le gage de sécurité, mais je sais qu'il y a plein de gens autour de moi que ça freine et qui refusent parce que, en fait, je fais ce que je veux, quoi. Et effectivement, il y a aussi cette adaptation. Enfin, quand déjà, t'es pas habitué à faire des achats en ligne, t'as un peu peur de tout, quoi. Et pour peu que t'aies déjà eu, moi, j'ai le cas dans ma famille, j'ai une tante tante qui s'est déjà fait prendre sa carte bleue, machin, sur des sites, voilà, plus jamais de sa vie elle le fera. Et même si je lui explique que non, c'est ultra sécurisé, ça ne marche pas parce que c'est pas dans son mindset d'achat.
En fait, ce qui est terrible, c'est que souvent, les gens qui se sont fait pirater leur carte, ils se sont fait pirater bien avant l'intervention de d'acteurs comme nous, puisqu'en fait, c'est bien pour ça qu'ils se sont fait pirater. Normalement, si tu arrives sur le site d'un marchand et sur une page de paiement normale, elle est, enfin, normale, par un acteur comme nous ou comme d'autres, t'as plus aucun risque qu'il arrive quoi que ce soit. Ce qui se passe avec des personnes qui ont moins l'habitude des codes du digital, c'est qu'en fait, ils vont recevoir un SMS en pensant que c'est leur banque, leur demandant des informations ou pensant que c'est Chronopost, que sais-je, qu'il faut encore payer 2 euros de frais d'envoi de colis. Et en fait, ils finissent par donner leurs informations bancaires. C'est là qu'ils se font complètement avoir. C'est d'ailleurs ça qui est frustrant. C'est qu'en fait, une éducation de base des codes du e-commerce et du digital leur permettrait très simplement d'éviter la fraude. Et effectivement, c'est pas le 3DS qui changera grand-chose parce qu'ils se font piquer ailleurs. En fait.
Vous travaillez avec plein de marchands. Est-ce que tu vois que les marchands, sur leur site, ils éduquent sur 3D Secure parce qu'ils ils expliquent que justement, il y aura des nouvelles étapes? Parce que moi, en achetant en ligne, je ne l'ai jamais vu et tout se fait au niveau du PSP. Donc, quand tu es redirigé vers le moyen de paiement, et en fait, il y aura peut-être une optimisation, en tout cas de l'éducation à faire de la part des marchands, non?
Y a certains acteurs qui commencent à le faire là depuis début mai. Un exemple, Uber dans leur application. Maintenant, ils te le disent. En fait, je pense parce que les très gros acteurs qui recevaient des paiements en ligne, parce que j'allais dire e-commerce, mais en fait, pour le coup, Uber, c'est encore autre chose. Ils avaient l'habitude d'avoir des cartes sauvegardées et de demander très peu de 3D Secure parce qu'en fait, ils ont les reins pour supporter des petits taux de fraude. Donc en fait, ils acceptent un peu de fraude pour maximiser leur conversion, ce que des petits marchands font beaucoup moins, parce que forcément, c'est plus douloureux quand tu fais moins de CA d'avoir un peu de fraude. Et donc en fait, ils ont des clients, des utilisateurs qui n'ont jamais eu l'habitude d'avoir une demande d'identification supplémentaire. Et du coup, là, comme ils sont obligés de redemander une authentification pour tous les nouveaux paiements qui se font depuis le 15 mai, ils ont rajouté une pop-up. Il y a quelques gros acteurs comme ça qui disent, il se trouve qu'il y a une nouvelle réglementation qui a été mise en place, on va vous rediriger vers une page de 3D Secure pour vous authentifier, ça va augmenter la sécurité de vos transactions à l'avenir. Ils le font assez bien.
Pour revenir sur la fraude sur le marché, on entend souvent parler, enfin on entend tristement quand on entend parler des marchands qui se sont fait voler des informations, c'est des informations clients, mais ça porte jamais les cartes bleues parce qu'en fait les marchands ils les stockent pas. Et ça, je pense qu'il y a une grosse incompréhension sur le marché, non, et de la part des médias qui s'imaginent que les e-commerçants ils stockent toutes ces infos. En fait, on est super sécurisé jusqu'au jour où les PSP ou les banques vont commencer à être moins sécurisées. Mais c'est tout votre métier et c'est ce que vous apportez aussi aux marchands, cette sécurité.
Exactement. En fait, les commerçants, ils n'ont pas le droit de recevoir les données de carte. Et ils les auront a priori jamais, à moins de demander au régulateur une accréditation d'établissement de paiement. En fait, ça les met au même niveau que des banques, ou en tout cas que des institutions bancaires. Et c'est vraiment une tannée à obtenir. Nous, c'est aussi pour ça qu'on est une solution qui existe et dont c'est le métier. C'est parce que quand tu as un autre métier, tu n'as pas de valeur ajoutée à essayer de faire ça, à passer des examens de sécurité tous les ans. C'est vraiment compliqué. Mais c'est ce qui fait aussi que tu es absolument sûr que ta solution, toi, en tant que commerçant, elle est au plus haut niveau possible. Parce qu'en fait, nous, on fait que ça toute la journée, de s'assurer de la sécurité des transactions.
Et quand on parle de fraude, donc ça veut dire beaucoup de choses dans le parcours client. Et là, on parlait tout à l'heure justement de vol d'informations personnelles. Le paiement, franchement, ça fait mal parce que c'est de l'argent directement des poches du marchand ou du consommateur. Du coup, il y a plein de fraudes qui existent. Vous avez des dispositifs pour justement vous prévenir de ça et vous avez plein d'outils en interne. Je suis curieux de savoir pourquoi il y a des outils qui sont spécialisés pour la fraude e-commerce. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la perception, et peut-être que justement, j'aimerais bien que tu me corriges peut-être, que dans l'écosystème, si tu es très sécurisé, il faut utiliser un outil tiers, une sorte d'antivirus pour les sites e-commerce. Tu le vois, les marchands qui utilisent ce genre d'outils, quand tu as une certaine taille, bien sûr.
Tu as tout résumé. En fait, quand tu as une certaine taille, il y a vraiment, en tout cas, moi, de ma vision du marché du e-commerce, il y a les mastodontes qui ont besoin, en fait, d'optimiser à la marge leur micro-centième de taux de fraude, ou éventuellement, d'ailleurs, c'est vrai aussi sur la tarification, sur plein d'éléments. Pourquoi ? Parce que quand tu fais des millions et des millions de volumes de chiffre d'affaires, si tu arrives à économiser 0,01% de taux de fraude, fraude, par exemple, tu fais la différence parce que ça peut, par exemple, justifier le salaire de quelqu'un à plein temps. Quand tu es un marchand qui fait même 10 millions de chiffre d'affaires, donc pas rien, hein, c'est pas un débutant, mais c'est quand même quelqu'un qui a pas une infrastructure énorme en termes d'équipe, en termes d'outils, etc. En fait, essayer d'économiser 0,01% et y passer un demi-temps plein, c'est pas la peine. Ça te prend trop de temps. Et c'est pas du tout rentable. Donc, je dirais que oui, pour les très gros marchands, utiliser un outil tiers, ça a beaucoup de sens parce que c'est rentable. Pour des plus petits marchands, et encore une fois, je ne parle pas des auto-entrepreneurs tout seuls dans leur chambre, hein, mais des grosses PME.
Il y a qui font moins de 10 millions d'euros en ligne, par exemple.
Ouais, jusqu'à 50 millions à peu près. Il y a des solutions qui sont mises en place par les PSP qui sont déjà bien suffisantes. Ouais.
Flora, on comprend bien qu'il y a un impact de la fraude. Alors moi, ce que j'entends, c'est personne ne va éradiquer la fraude. En tout cas, on peut la diminuer. Est-ce que les petits, les moyens et les grands commerçants ont le même intérêt à faire diminuer la fraude selon qui sont importants, pas importants, gros
Alors, je pense que tous les commerçants ont intérêt à faire diminuer la fraude. Pourquoi ? Parce que plus les gens ont confiance dans le secteur du e-commerce, plus au global, ils vont acheter et plus ça va leur permettre de croître. En 2020, la FEVAD a publié un chiffre en expliquant que le marché avait pris plus 30% en un an. Ce que ça veut dire, c'est que plein de gens qui étaient probablement réticents au e-commerce, subitement, se sont rendus compte qu'ils devaient consommer et n'ont pas eu le choix et se sont mis à voir que ça marchait. Donc, on réachetait à nouveau. Donc, ça, c'est plutôt un bon signe. Ceci dit, ça a quand même beaucoup d'impact sur le quotidien des marchands. Pourquoi ? Parce que les solutions de paiement, comme nous, comme Payplug, ont un devoir aux yeux du régulateur de s'assurer qu'il y a le moins de fraude possible. Et donc, parfois, elles demandent des choses aux marchands qui peuvent, pour des marchands qui ont moins l'habitude, être un peu surprenantes. La première chose qui, pour des marchands plus débutants, les surprend quand on entre en relation avec eux, c'est qu'on leur demande en fait plein de justificatifs avant d'accepter de travailler avec eux. Ça rend aussi un peu notre travail un peu particulier quand on fait par exemple de l'acquisition client, parce qu'en fait il y a plein de gens avec qui on n'a pas forcément envie de travailler parce qu'ils sont sur des secteurs à risque.
Ouais.
Quelque chose de...
Il y a quand même un peu d'éthique à avoir dans le paiement. Quoi.
Mais parfois il y a des choses surprenantes parce que quand toi tu te lances et que tu as envie de travailler, de lancer un produit un peu high-tech par exemple, il y a plein de solutions de paiement en face de toi qui vont te dire attends, tu fais du high-tech, mais c'est hyper risqué comme secteur, il y a plein de fraudes. Pourquoi ? Il y a sûrement plein de raisons, dont certaines qu'on n'explique pas bien, mais en fait, c'est effectivement des secteurs, le voyage aussi un peu, où il y a plus de tricheurs, d'un côté comme de l'autre, hein, côté marchand comme côté client. Et en fait, du coup, ça peut avoir un impact sur leur business model parce que, on va leur, d'une part, au départ, on va leur demander beaucoup de justificatifs, puis très régulièrement, on va leur demander de vérifier que leur activité est légitime. On va aussi, éventuellement, ça arrive, il y a des solutions qui font ça, mettre des réserves, mettre un petit peu plus de temps, en fait, avant de leur rendre les fonds. Et donc, ça peut avoir un impact qui n'est pas négligeable sur ton business model parce que si tu sais que tu dois mettre en réserve en cas de problème, disons, je sais pas moi, 10% de ton chiffre d'affaires du mois pour rassurer l'ensemble des acteurs de la chaîne du paiement, eh bien, en fait, ça veut dire que c'est 10% que tu peux pas réinvestir immédiatement dans l'achat de fournitures, dans du décaissement, quel qu'il soit. Et donc, en fait, ça, au quotidien, c'est non négligeable, quoi. Quand, par ailleurs, en plus, tu sais que potentiellement, c'est 10%, ça va être ce qu'on appelle du chargeback, donc en fait des oppositions, et que tu vas devoir rendre l'argent, ça veut dire que tu ne peux pas immédiatement compter dessus comme étant quelque chose d'encaissé et que tu vas pouvoir mettre à ton bilan réutilisé en trésorerie. Donc en fait, ça c'est non négligeable pour des marchands, parce que quand tu as besoin d'avoir des rotations de stock très rapides et donc du coup tu as besoin de réutiliser immédiatement ta trésorerie pour acheter du stock par exemple, ça peut te poser problème. Donc c'est de l'anticipation à avoir.
Et l'alternative pour le marchand, c'est d'aller vers des solutions un peu plus exotiques, mais qui sont peut-être un peu moins sérieuses pour le paiement et qui sont plus souples sur ces règles.
Un petit peu plus
après, tu mets le curseur. mais tu mets le curseur où tu veux. Donc, est-ce que tu prends un peu plus de risques, tu paies un peu plus cher et tu as moins de sécurité, et c'est là où tu dois prendre une décision après.
C'est exactement ça. De toute façon, je pense qu'on peut dire ça dans tous les secteurs d'activité. Si tu prends du risque, tu le payes. Mais en même temps, potentiellement, ton retour sur investissement peut être plus important. Donc, c'est toujours un équilibre à avoir. Après, aux yeux du régulateur, on ne joue pas avec la fraude non plus. C'est un sujet qui est sérieux et que tu peux pas prendre complètement à la légère. Le risque assez immédiat dans ces cas-là, c'est que tu te retrouves à plus pouvoir exercer ton activité. Et là, tu as quand même vraiment complètement perdu, quoi.
Bah Flora, merci beaucoup. On a appris énormément de choses, tant côté marchand que côté client final. C'est toujours un peu compliqué parce que quand on est prestataire de paiement, en tout cas, on ne sait plus qui est le client final. Mais en tout cas, merci, on a appris plein de choses. Flora, comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin pour en savoir un petit peu plus sur l'activité de Payplug, les actualités de Payplug? Qu'est-ce que tu nous recommandes?
Alors, si vous voulez creuser le sujet de la DSP2, nous, on a un blog avec pas mal d'articles plus fouillés sur la nouvelle réglementation, quel impact ça va avoir pour les marchands. Je pense que c'est un sujet qu'on a beaucoup sous-estimé et qui pourtant va avoir beaucoup d'importance sur le taux de conversion des marchands. Et par ailleurs, nous, on aime bien décrypter l'actualité.
Ça fait un point commun avec nous.
Voilà, exactement. Et on publie toutes les semaines une newsletter de décryptage de l'actualité, exactement comme on vient de le faire ici, où on essaye sans langue de bois d'aller soulever le dessous des cartes pour voir ce qui se passe dans le secteur du commerce et du e-commerce. C'est une newsletter qui s'appelle T-Rex et que je vous conseille d'aller lire.
Et on peut retrouver sur le site de Payplug.
Et on peut la retrouver sur le site de Payplug.
On mettra tous les liens. On avait déjà parlé il y a quelques mois de T-Rex. C'est un ton très décalé, no bullshit, authentique. Et puis, c'est pas juste le paiement. Pour imaginer que vous n'êtes pas là pour vendre du Payplug. Vous êtes juste là à expliquer un peu les tendances, ce qui se passe, les actualités. Donc, on aime beaucoup, les TMO, recevoir cette newsletter.
C'est tous les mercredis, en début d'après-midi.
Ah, tu es bien abonné. Donc, on va mettre tous les liens dans les notes de l'émission. On mettra également ton profil LinkedIn pour les gens qui souhaitent te contacter. Et puis, on te dit à très bientôt.
Mais oui,
merci beaucoup, Florent.
Effectivement. Flora, si on a des commerçants qui ont envie de changer de PSP ou de trouver un nouveau PSP, ils peuvent venir à toi.
Tout à fait.
Voilà.
Merci
avec un
beaucoup,
tarif
Flora.
Préférentiel.
À très bientôt.
Merci Flora.
Merci, à bientôt.
On vous invite à nous rejoindre sur LinkedIn, sur Instagram, sur WhatsApp. Tous les liens sont dans les notes de l'émission.
Pour écouter l'intégralité de la saison 2, rendez-vous sur le site web lecafedelecommerce.fr.
Laissez-nous des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se fera un plaisir de les lire au micro dès la rentrée.
En attendant, profitez, bel été et rendez-vous en septembre pour la saison 3 du podcast Le Café de l'e-commerce.